Bon, je vais essayer de faire mon mieux de parler en français. Sinon, je vais swapper en malgache. Mais non, ça n'arrivera pas, j'espère. Et on va prier. On va demander au Seigneur de parler dans nos cœurs. Vraiment, pas seulement parler, mais vraiment que ça soit quelque chose qui va nous pousser d'aller un peu plus près de lui. Seigneur, nous te remettons ta parole, Seigneur, la prédication de ta parole, que ça soit saint et que ça soit édifiant, pas seulement une connaissance, mais vraiment quelque chose qu'on va pratiquer dans nos vies, Seigneur, pour te rendre plus gloire. Merci, Seigneur. Amen. Bon, ce matin, quand j'ai prêché en malgache, je me suis dit, je l'ai fait. Et j'étais vraiment content. Merci Seigneur, tu m'as aidé à prêcher ta parole. Et quand j'ai entendu celle de Kim, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je m'arrête cet après-midi et qu'on va jouer. On va faire jouer la MP3 de ce matin et on va traduire. Mais je pense que le Seigneur a quelque chose qu'il a mis dans mon cœur et que je vais essayer de vous transmettre cet après-midi. Je vais parler de le même truc que j'ai parlé pour le culte malgache et que Kim a aussi parlé pendant le culte anglophone. Comprenons-nous entièrement Dieu? Oui ou non? Non. Il est plus qu'on le pense. Comme la Bible nous dit, ses pensées sont plus vastes que les nôtres. Et une facette de Dieu qui nous est parfois difficile de comprendre, c'est de penser, au moins moi, je pense que c'est un peu difficile de le comprendre, de penser que Dieu est raisonnable. Puisque pour la plupart des gens de ce monde, Dieu est celui qui fait quand on lui semble. Et oui, il est souverain. Et nous connaissons tout ça, cela. Mais parfois, puisqu'on voit la souffrance dans cette vie, et on s'est dit, mais Dieu, il est la raison, il a perdu la raison, puisque nous, on souffre ici, il y a la guerre, il y a tout, il y a la famine, surtout ici à Madagascar. C'est pour ça qu'il y a tant de ONG, de missionnaires qui nous aident. Mais en fait, nous savons très bien que l'incarnation fait partie des choses que Dieu a fait pour nous aider à comprendre qu'il est un Dieu raisonnable. Le fait que Dieu s'est vêtu en homme, ça nous aide à comprendre que Dieu est raisonnable, puisqu'il connaît, il s'est mis dans nos chaussures, baskets. Et là, nous avons un Dieu qui est raisonnable. Et je vais essayer de parler de cette facette-là de Dieu. Comme je l'ai dit, oui, Dieu est souverain, mais parfois nous lui mettons dans une boîte qu'on appelle souveraineté. Et moi, je l'admets, Dieu est souverain. Mais comme si dans cette souveraineté, il ne peut pas faire ceci et cela, puisque cela va détruire notre compréhension de souveraineté. Mais Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Et je vais en parler un peu après ce que je veux dire par cela. Il n'est pas un Dieu sans émotion aussi, ou sans cœur. Mais il n'est pas aussi un Dieu qui agit seulement avec le sentiment. Il pense bien à ce qu'il fait. Il ne change pas d'humeur d'une minute à l'autre. Dieu merci. Sinon, notre salut n'est pas placé sur une bonne base. S'il change d'humeur d'une minute à l'autre. Et c'est pour cela que je vais en parler de ce Dieu qui est raisonnable. Et ma prière cet après-midi, c'est que après avoir écouté ce que Dieu a dans son cœur à nous transmettre, nous serons vraiment promptés, nous serons vraiment inspirés à prendre plaisir, à avoir une relation, à prier, à prier un peu plus, avoir une relation de cœur en cœur, comme Denis l'aime bien dire, et d'être confiant que notre Dieu est vraiment un Dieu formidable. Amen. Amen. Je suis un peu pentecôtiste, charismatique, donc c'est pour ça que vous entendez Amen, 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 Amen. Mais n'ayez pas peur. Bon, mon premier point, je vais en parler, je vais parler de plus ou moins 5 points. Pas plus ou moins, mais vraiment 5 points. Mais mon premier point, c'est que notre salut en Dieu est basé sur un raisonnement qui suit une suite logique, pas sur un sentiment instable, même si c'est fait et motivé par l'amour. Pourquoi il a planifié la rédemption avant la fondation de ce monde ? Notre salut. Et cela, dans cela, il y a cet raisonnement de Dieu, parce qu'il connaît très bien, il nous connaît très bien, puisque c'est lui notre créateur en fait, dans notre nature pécheresse, qu'on ne peut pas se tourner vers lui, qu'on a le cœur rebelle. Et on a pu voir avec Adam et Ève, on a pu voir avec la nation d'Israël, que tout le monde a échoué à suivre le cœur de Dieu. Par défaut, nous avons le cœur de tourner contre lui, nous haïssons Dieu. On peut voir dans Romains 3, si vous avez votre Bible avec vous ou votre smartphone, Romains 3, 10, l'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu, personne ne cherche Dieu. Et nous avons ça dans nous, après the fall, la chute, voilà. Et je ne sais pas si vous connaissez R.C. Sproul, mais il a écrit ceci, le non-croyant jamais, jamais ne cherche Dieu. Le non-croyant est un fugitif fuyant Dieu. La nature humaine de l'homme se détourne de Dieu, se cache de lui. Nous le savons tous, c'est nous, on se cache de Dieu. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est celui qui cherche, nous sommes ceux qui fuient. C'est Dieu qui cherche et c'est nous qui fuyons. Ainsi est le péché de la nature humaine. Il veut tirer tous les bénéfices que Dieu offre sans Dieu lui-même. Chercher après Dieu est une entreprise chrétienne. Et Dieu connaît vraiment ça, que notre cœur ne se retournera jamais à lui sans que c'est lui qui a planifié et c'est lui qui va sauver, qui va faire la rédemption de tout humain. Et c'est pour ça que c'est bien pensé, et c'est bien planifié, et c'est raisonnable, puisque on n'a pas le cœur tourné à lui. Donc il a fait le salut, il nous a sauvés. Il a fait tout pour que la gloire de notre salut revienne à lui. Il a pensé au coup, l'incarnation, pas la réincarnation, mais l'incarnation, c'est seulement un qui s'est incarné, c'est Jésus. L'incarnation, un Dieu qui est Dieu de tout l'univers, qui est adoré, honoré par les anges des cieux. Et il s'est descendu, il a pris nos places. La croix, quand Jésus disait dans le champ de Gethsémané, Père, Bon, je vais paraphraser puisque je ne me souviens pas en français. Mais si c'est possible, je veux me tirer. Ouais. Mais lui, il a pensé au coup et il s'est allé à la croix. Dieu merci, c'est lui qui a tout fait. Et ça, c'est raisonnable puisqu'on n'a pas le cœur à lui suivre. On n'a pas le cœur à aller avec lui. Et ce n'est pas seulement un sentiment qui s'est apparu soudainement dans l'histoire, mais un plan bien pensé et prophétisé dès le début, en Genèse, lors de la chute même. Quand Dieu a dit au serpent qui a, progéniture de la femme, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, la descendance d'une femme qui va t'écraser. Et cela nous montre que tout cela, Dieu est vraiment un Dieu qui est raisonnable. Mon deuxième point, c'est Dieu est un Dieu compatissant, dans un sens que Dieu écoute notre logique, notre raisonnement. Dieu est un Dieu à qui on peut expliquer notre cas, on peut plaider notre cause. On va lire dans 2 Rois 20, chapitre 20, versets 1 et 1 jusqu'à 7. On va lire une histoire du roi Ézéchias. Je ne sais pas si c'est Ézéchias. Ben, ça va, ok. Merci Andy. Je ne vais pas me casser la tête. Mais quand même, il faut que je sache. C'est quoi, Ézéchias ou Ézéchias? Ok, Ézéchias, ok. On va lire cette histoire qui est vraiment merveilleuse et qui m'a fasciné pendant la préparation de cette prédication. On va lire dès le verset 1, dès le début jusqu'au verset 7. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était prêt de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se rendit à son chevet et il lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions car tu vas mourir. » Aide-moi un peu. « Tu vas ? » « Tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. « De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Et Ézéchias versa l'abondante larme. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant « Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir après-demain. Tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de, aide-moi, 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues et on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère du roi qui se rétablit. Cet passage est quand même un des passages qui est assez difficile et un peu controversé, puisqu'on connaît très bien que Dieu ne change pas d'avis d'une minute à l'autre. Et est-ce que Ézéchias a su changer lors de sa mort? Et on venait de le lire. Le prophète a bien entendu la décision, la première décision de Dieu, qu'il va mourir. Et après, sans avoir quitté le cours du roi, une autre décision est venue, qu'il va vivre. Donc on dirait qu'il a pu changer de décision de Dieu. Dieu ne change pas d'avis, mais il faut qu'on tienne en compte aussi qu'il est un Dieu qui veut une relation de cœur à cœur. et qu'il nous écoute. Il n'est pas seulement, ok, je suis le boss, donc j'ai déjà dit ça, mais je pense que c'est dans sa souveraineté aussi qu'il a dit que celui-là, il va vivre. Et ce n'est pas seulement qu'il va vivre, qu'il va être guéri, mais aussi, il va vivre 15 ans de plus, et en plus de ça, il va combattre pour la nation de Juda. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Dieu a entendu son désir de vivre encore et il a donné ses raisons. Ézéchias a plaidé sa cause. Il a demandé d'être guéri et on lui a accordé 15 ans de plus. Comme Jacques l'a dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Avons-nous demandé assez devant notre Père Céleste? Avons-nous plaidé notre cause? Ou nous sommes juste, passifs? Donc, l'Éternel a dit ça, et ok. Parfois, Dieu nous pousse à prier encore plus et à plaider nos causes, comme c'est ce cas-là. Et maintenant que nous nous dépendons plus sur nos mérites, nos performances, mais celui de Christ, pas comme Ézéchias qui a dit « Ah, moi, j'ai tout fait. » Bon, il dépendait de sa performance. Mais nous avons Christ. Ma question, c'est est-ce que nous sommes passifs? Parfois, Dieu veut que nous raisonnons, expliquons, plaider nos causes. Et parfois, on est juste passif ou juste, puisqu'on a une regard calvinistique et c'est la volonté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Bon, c'est bien, mais parfois, Dieu veut nous pousser vers cet horizon-là, qu'on prie encore plus. Qu'on demande, qu'on plaide nos causes devant lui. Et on a vu ce que le roi Ézéchias a obtenu puisqu'il a fait ça. Mais en contrebalance de ce que j'ai dit là, Dieu est négociable, mais pas manipulable. Beaucoup de nouveaux courants de christianisme pensent que Dieu est à notre service. Dieu va faire ceci, faire cela. Puisque on a jeûné 40 jours, ce sont toutes des choses qui sont bien, jeûner, donner son dîme et tout ça, ce sont toutes des choses qui sont bien. Mais il y a des gens qui pensent qu'avec ça, ils sont le Seigneur du Seigneur et le Seigneur est leur. Comment on dit ça dans le film d'Aladin? Le génie qui exauce tout, qui est à leur merci. Mais Dieu n'est pas manipulable. Et la manipulation est contre la raison. C'est pour ça que Dieu n'aime pas ça. C'est du forcing. Et c'est pire que la sorcellerie. Dans nos prières aussi, nous pouvons être spécifiques devant Dieu, puisqu'il est un Dieu raisonnable. Parfois, on fait notre tête de religiosité, avec nos religiosités, tête religieuse. L'exemple que je vais prendre, c'est dans Marc 10, 46 à 52, c'est l'histoire de Bartimée. Et le Seigneur lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et la plupart des gens qui sont religieux ou « que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur. » Mais alors que Dieu, Jésus, il connaît que Bartimée, il est aveugle. Mais il a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et j'aime bien la réponse qui est court et claire et précis et spécifique de Bartimée. Sa réponse est court et claire et précis. Que je puisse voir. Est-ce que nous sommes comme ça devant le Seigneur? Spécifique, puisque lui, il est... Il est raisonnable. Il comprend quand tu as besoin de, je ne sais pas, 1 million d'ariars pour aller à Betchouk. Ou, je ne sais pas, tu as besoin que ta belle-sœur, ta belle-mère soit guérie. Oui. C'est moi. Hein. C'est moi. Je prie pour ma belle-mère. Mais pas d'une façon religieuse. Ah non, oui, Seigneur. Même si Jésus te demande déjà, qu'est-ce que je veux que tu... qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, nous venons de... Hein? Oui, ok. Donc, Dieu nous donne le privilège de demander des choses spécifiques devant lui. S'il connaît ce que nous désirons et ce qui doit être pour nous, demandez et il vous sera donné. Et Dieu peut être vraiment spécifique dans sa réponse. Et en voyant notre prière répondue spécifiquement, cela nous rend plus fermes dans la foi, plus centrés et plus centrés vers lui. Et on glorifie le Seigneur un peu plus quand on voit une prière qui est spécifiquement répondue. Il y a un jour, moi et ma femme, on est passé à Shoprite. Je ne sais pas où c'est, O ou A, Shoprite, à Shoprite. Et c'était pendant la fin du mois, je pense. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent dans ma poche. Et elle voulait s'acheter du raisin chez Shoprite, ce qui est vraiment bon. Ouais, c'est 20 milliards ou plus. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai pas assez d'argent, on va juste acheter 100 grammes. Et ben, elle s'est contentée à prendre ce que j'ai pu acheter. Mais dans son cœur, elle disait encore, Seigneur, vraiment, j'aime avoir plus. Et elle ne m'a pas dit, hein, mais c'était dans son cœur. Qu'elle voulait manger un peu plus de raisin. Et elle disait ça au Seigneur. Et quelques minutes après, disons 30 minutes après, il y a une sœur qui est passée chez nous. Et elle est venue apporter du raisin. Vraiment, je ne sais pas, 1 kilo, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais elle ne nous a pas vus. Elle n'a pas entendu la prière de Mur. C'était personnel. Mais en voyant ça, en voyant cela, elle était boostée. Hein. Seigneur est vraiment un Dieu qui nous entend. Amen. Et nous pouvons être spécifiques. Il aime bien qu'on soit spécifique, qu'on soit vraiment précis, puisque il est un Dieu raisonnable. Amen. Amen. Et l'avant-dernier point, ou le dernier point, c'est le doute n'est pas seulement un tue-foi, c'est un mot que j'ai inventé, un tue-foi. Ok, et vous devez mettre tout, hein, tout, Zagatina Malal, c'est moi qui ai inventé ça. Oui, copyright. Le doute n'est pas seulement un tue-foi. C'est une insulte envers Dieu. Cela nous empêche limite de voir la main de Dieu en action. Approcher Dieu avec foi, ôter notre doute. Jacques 1, 6. Je vais lire puisque je ne le connais pas en français. Jacques 1, 6. C'est où déjà Jacques ? Oui. Et voilà. Mais qu'il la demande avec foi sans doute, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Je vais vous lire une histoire
dans 2 Rois 13, 14, 13, chapitre 13, versets 14 à 19. C'est l'histoire du roi Joas. Je pense que celui-là, il avait du doute. Et en plus, il n'est pas un bon roi. Et il est allé voir le prophète. Et il a... Ah, j'ai failli dire un mot qui n'est pas adapté. Il a... Ben, on va lire, voilà. On va lire. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 fois ou 6 fois alors que tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu battras 3 fois, que 3 fois. Il a déjà pu connaître que le fait de tendre l'arc a une signification prophétique. Et quand l'homme de Dieu, quand Élisée lui a dit de frapper avec c'est pas l'arc, mais flèche. Il devait déjà voir dans sa pensée que c'est un acte prophétique. Mais il avait le doute. Il n'a frappé que 3 fois. 3 victoires seulement contre les Syriens en conséquence. Et on peut voir aussi le background de ce roi, que seulement il voulait Dieu l'aider, mais il ne voulait pas lui suivre. Il veut seulement la bénédiction sans avoir suivre le bon Dieu. Et on peut voir, puisque là, bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire frapper le sol 3 fois? Ben, je vais le faire, ok. Et ça, c'est le doute, la lacune de foi. Quand Dieu nous dit quelque chose à travers sa parole, puisque avec tout ce qu'il dit, des révélations, ce que la Bible nous dit, quand on est sûr que c'est Dieu, il veut qu'on fonce. C'est un... Je sais pas comment le dire proprement, mais il veut qu'on fonce. Il attend qu'on se donne à fond, pas à moitié. Comme le roi Joas l'a fait. Dieu est honoré à travers nos actes de foi et de confiance à sa capacité. Et ça, ça reflète aussi le fait Joas a été demandé de faire ceci et cela. Et Dieu l'a répondu selon ce qu'il a fait. Cela nous donne une perception que Dieu est un Dieu raisonnable. Il donne ce qu'il nous mérite. Et quand on a la foi, quand on a la confiance en Dieu, à l'Éternel, à sa capacité, à son aptitude, et en fonce, on va voir la gloire de Dieu se manifester. Le roi David est selon le cœur de Dieu parce qu'il a cette attitude-là. La foi à la compétence et à l'aptitude de notre Seigneur. Quand il a fait face à Goliath, on connaît tous l'histoire. On a pu voir que lui, il connaît ce qui est derrière lui. Hein. Il connaît qu'il va lui donner la victoire. Et agissant comme ça aussi, comme cela aussi, ayons confiance à l'Éternel, parce qu'il nous donne ce qui nous mérite. Et cela marque que Dieu est vraiment raisonnable. Quand il a préparé la construction du temple, par exemple, il s'est donné à fond, même si c'était pas à lui de le faire, mais il a gathered, il a rassemblé tout ce qui doit être dans ce temple-là pour que son fils Salomon le fasse bien, que ça reflète la gloire et la grandeur de son Dieu. Le fait que Dieu deal, je ne sais pas comment on dit ça, traiter, ou je ne sais pas, avec nous personnellement, vraiment ça me fascine. Dans notre prière, ainsi que dans notre salut aussi. Quand je suis dans une situation de détresse, il est avec moi. En même temps, il y a des personnes qui sont dans la joie, et il est aussi avec cette personne. Cela me fascine. Je ne sais pas, peut-être vous avez une grande tête, vous pouvez pas penser à des choses qui sont... Mais pour moi qui est petit, qui est pas assez intelligent, cela me fascine que Dieu traite les gens personnellement et il écoute. Quand notre plaidoyer, on peut dire ça, oui, il écoute notre cas. Pas seulement écoute, mais il donne ce qui nous, plus que ce qu'on mérite. Il nous a permis d'être spécifiques dans nos prières. Ça, c'est vraiment un Dieu qui est vraiment formidable, comme je l'ai dit en commençant. Je suis dans la fuite, il m'a poursuivi avec son amour et montre le chemin, la vie et la vérité. J'étais son ennemi lorsqu'il est venu dans ma vie et il n'attendait pas que je sois présentable. Il est venu pour me dévêtir du vêtement que j'avais auparavant, souillé par le péché, et me revêtir de lui-même, tout propre, par sa grâce. Quel Dieu fantastique! Quel Dieu vraiment pouf! J'utilise ce que Ange, les mots d'Ange. Quel Dieu, Allahu Akbar. Mais le vrai Dieu, je dis pas d'Allah, mais vraiment notre Dieu est vraiment inimaginable. Et j'aimerais que ça soit vraiment quelque chose qui nous pousse à prier, à avoir une relation. Puisque notre Dieu, avoir une relation avec notre Dieu un peu plus, puisque notre Dieu est un Dieu raisonnable. Amen. Amen. Vous pouvez t'en prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour tout ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Et je pense que c'est petit et c'est peu, mais ton Saint-Esprit va transformer ces mots incomplets, ces phrases qui ne sont pas adaptées même, et transforme en une révélation dans notre cœur, Seigneur. Et change-nous à croire encore plus à toi, de plaider nos causes devant toi pour voir ta gloire agir dans nos vies, pour voir ta main agir dans nos vies, Seigneur. Te rendant gloire parce que tu es bon, Seigneur. Dans notre salut, tu l'as fait, puisque tu connais que nous ne pouvons pas. Et merci, Seigneur. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Ouais, pour répondre à ce que notre ami Poudzou nous a partagé tout à l'heure, peut-être que parmi